más éñinan en sacra
y Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction russe, Elena Gabrielan.
Добрый вечер.
Afin d'analyser le traditionnel discours annuel de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale. Nina Nguang, de la rédaction chinoise, concernant la réélection de la présidente taïwanaise. Et puis Ali Reza Manavzadeh, de la rédaction persane, à propos des tensions qui, en Iran, persistent entre le peuple et le pouvoir. Bonsoir à vous. Intéressons-nous à l'une donc des principales actualités de la semaine, à savoir la façon dont Vladimir Poutine prépare l'après-Poutine, en tout cas à ce coup de théâtre politique.
Merci beaucoup. Merci. Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.
Ce que l'on entend, c'est donc Vladimir Poutine dans son traditionnel discours devant l'Assemblée fédérale. Le président russe y annonce le lancement d'une grande réforme constitutionnelle, une annonce qui intervient juste avant la démission du gouvernement. Alors beaucoup de changements en très peu de temps. Elena Gabrielan de la rédaction russe, que s'est-il passé ?
Alors, il faut dire d'abord que les discours traditionnels de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 20 ans, ne suscitent plus un grand intérêt. D'abord, pour leur caractère répétitif, on se préparait à nouveau d'entendre les promesses socio-économiques et les acquis dans le domaine de la défense et de la politique étrangère. Mais cette fois-ci, Vladimir Poutine ressuscite l'intérêt général. Il fait une déclaration surprenante. Le président russe propose des vastes réformes constitutionnelles qui réduiraient les prérogatives du chef de l'État et renforceraient le rôle du Parlement, du Premier ministre et celui du Conseil d'État, un organe consultatif.
Et puis, comme si cela ne suffisait pas, une deuxième surprise.
Oui, le gouvernement russe annonce sa démission. Les choses s'accélèrent. Le jour même, Vladimir Poutine propose au poste du Premier ministre la candidature de Mikhail Mishustin, dirigeant depuis 10 ans le service fiscal fédéral. Selon la décision de Poutine, Dmitri Medvedev, l'ancien chef du gouvernement, devient le vice-président du Conseil de la sécurité, donc adjoint de Vladimir Poutine. Le 16 janvier, le Parlement russe a validé la candidature de Mikhail Mishustin.
Mishustin, justement, il était peu connu hein, du grand public, encore moins à l'étranger. Comment est-ce que les médias chinois accueillent sa nomination ?
Le nouveau Premier ministre russe, grand inconnu même sur Wikipédia, plusieurs médias chinois officiels ont ainsi écrit et se sont plaints du manquement de ces informations disponibles tout de suite pour couvrir cet événement surprenant. Selon la chaîne Phoenix, l'allié loyal de Poutine, Medvedev, n'est pas compétent pour freiner le haussement du prix et améliorer le pouvoir d'achat des Russes. Il est donc important de choisir quelqu'un qui connaît bien l'économie et qui est consensueux et réaliste. Et Mikhail Mishustin, fonctionnaire à la tête des services fiscaux russes depuis 10 ans, est choisi grâce à son esprit stable et calme et à sa maîtrise du travail, écrit la chaîne chinoise en faisant référence au rapport de Mishustin à Poutine lors des conférences du travail.
Elena Gabrielan, jusqu'à présent, donc Mishustin était relativement peu présent hein, sur la scène publique politique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau Premier ministre ?
Il a 53 ans et a reçu le soutien massif de 383 députés avec 44 abstentions et aucun vote négatif. Avant d'être nommé à ce poste, Mikhail Mishustin dirigeait pendant 10 ans le service fiscal de la Russie et il a fait son entrée dans l'administration en 1998. Les médias russes mettent en avant les acquis de ce technocrate, notamment le service fiscal avec lui est devenu plus efficace grâce à une numérisation. Mais il est encore difficile de dire quel serait son style de gouvernance. Selon certains médias, il serait proche de l'ancien ministre des Finances Alexei Koudrine, figure importante qualifiée comme libérale. Un détail certes, mais très important, Mishustin partage avec Vladimir Poutine la même passion, le hockey sur glace. Mishustin et Poutine se sont affichés en train de jouer au hockey sur glace lors du match de gala à Sochi, auquel le président russe participe chaque année.
Mishustin remplace donc Medvedev, Nina Nguang. Quels sont les commentaires côté chinois, là encore, sur cette nomination ?
Quelques remarques bien décourageantes n'ont pas échappé à la chaîne Phoenix entre Poutine et Medvedev. Elle cite d'abord le remerciement de Poutine au gouvernement sortant. Tous les problèmes n'ont pas été réglés. Puis le discours de Medvedev lors de sa démission. Le nouvel an est aussi mauvais que l'an passé. La différence, c'est que l'an passé étant déjà assez mauvais, le nouveau est toujours pire. La chaîne chinoise commente que Poutine est déçu par son fidèle à qui il a donné 12 ans d'opportunité. Il est moins facile aujourd'hui de les voir ensemble en grande intimité.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Alireza Manavzadeh, de la rédaction persane. En Russie, outre la Douma, le rôle du chef du gouvernement sera également renforcé par ces réformes. Est-ce que Vladimir Poutine aurait l'intention de redevenir Premier ministre ?
Peut-être, mais c'est une hypothèse. Si c'est le cas, ce serait quand même très mal perçu par une tranche de la société. Du moins, par les Russes qui espèrent voir une vraie démocratie dans leur pays. C'est vrai que pour un homme comme lui, renoncer au pouvoir est quasiment impensable. En tout cas, on verra le moment venu ce qui se cache derrière cette vaste réforme constitutionnelle. En 2008, en raison de restrictions constitutionnelles, il a dû céder pour une durée de 4 ans la fonction de président à Dmitri Medvedev et prendre la tête du gouvernement. En 2012, les deux hommes ont échangé leur poste. Mercredi dernier, Poutine a fait savoir qu'il propose à Dmitri Medvedev le poste de vice-président du Conseil de sécurité russe qu'il préside lui-même en ce moment.
C'est ce que nous disait tout à l'heure Elena. Tour de passe-passe donc politique. Avec cette redistribution des cartes, Elena Gabrielan, Vladimir Poutine semble préparer son avenir. Il est au pouvoir depuis 20 ans, il faut le rappeler. Réélu en 2018, il a 67 ans. Il doit le quitter, le Kremlin, théoriquement en 2024. Quels sont les scénarios, les scénarios possibles ?
Alors, selon la réforme annoncée, il y a deux possibilités. Si le rôle du Premier ministre est renforcé, rien ne l'empêche d'occuper ce poste. C'est du déjà vu, comme on a rappelé tout à l'heure. Alors, deuxième scénario, dans la nouvelle organisation, il pourrait être le dirigeant du Conseil d'État, renforcé avec plus de pouvoir que le président et le chef du gouvernement. Certains l'imaginent en arbitre suprême avec ce poste sur mesure, comme l'a fait déjà Nursultan Nazarbayev au Kazakhstan. L'année dernière, il est devenu une sorte de père de la nation, laissant la présidence à un fidèle obéissant. Il est tout à fait possible qu'il existe d'autres scénarios moins prévisibles. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine anticipe et prépare son avenir. La grande question est de savoir si l'ère post-Poutine est proche ou bien on va assister à nouveau à une transition de Poutine à Poutine.
Encore un regard différent avec vous, Alireza Manavzadeh. Ces réformes du système politique russe, vous les mettez en regard avec celles qui ont été adoptées en Turquie ?
Je ne le crois pas. Bien que ces réformes renforcent les pouvoirs du Parlement, elles préservent le caractère présidentiel du système politique que Poutine pilote depuis 20 ans. Ce n'est pas comme en Turquie où Erdogan a fait basculer le régime parlementaire en un régime présidentiel. Une fois ces réformes mises en œuvre, la Douma, c'est-à-dire le Parlement, aura un rôle important à jouer dans la formation du gouvernement. C'est elle qui va élire le Premier ministre que le président sera obligé de nommer. Actuellement, la Douma confirme le choix du président. En Turquie, la réforme constitutionnelle a aboli le poste de Premier ministre dont la fonction est assurée actuellement par le président. Erdogan a mis fin à une tradition très ancienne chez les Turcs. Sous l'Empire ottoman, le gouvernement du sultan était dirigé par le grand vizir dont la fonction a été maintenue lors de la proclamation de la République en 1923.
On assiste donc à un partage du pouvoir en Russie actuellement. Alireza, du côté d'Ankara, qu'est-ce que cela donne ?
Tout à fait. Alors qu'en Turquie, on a assisté à un processus de monopolisation du pouvoir par Erdogan, de telle sorte que bon nombre de ses proches collaborateurs l'ont quitté. Ahmad Davutoğlu, son ministre des Affaires étrangères, après avoir vivement critiqué Erdogan, a même claqué la porte de son parti pour fonder son propre parti, le Parti du Futur. Il est vrai qu'en Russie, le paysage politique n'est pas aussi diversifié qu'en Turquie. Et c'est peut-être pour cette raison que Poutine ose renforcer le pouvoir du Parlement. Aujourd'hui, ce sont plutôt les forces pro-Poutine qui dominent les deux chambres du Parlement. Il n'y a pas d'opposition structurée pour contrarier ses projets.
Elena Gabrielina, la rédaction russe, je reviens vers vous. Comment est-ce que les Russes ont réagi aux annonces, au discours du président et à la démission du Premier ministre ?
Si on se base sur les chiffres de l'Institut de sondage FTIOM, plus de 80% de citoyens russes ont qualifié le discours de Vladimir Poutine comme positif. C'est 30% de plus que l'année dernière. Un peu moins de la moitié de la population, après la déclaration du président, espère de voir de vrais changements. Sur les rares médias d'opposition, on peut aussi entendre des critiques vis-à-vis du chef de l'État qui aspire plus la confiance et qui est déconnecté de la population. On peut justement se poser la question si les citoyens russes auront la possibilité de participer dans l'élaboration de cette grande réforme constitutionnelle. Certains médias en France ont informé que la réforme constitutionnelle en Russie ferait objet d'un référendum. Or, ce n'est pas le cas. Ni référendum, ni même en débat national. Le porte-parole du Kremlin a précisé qu'il s'agirait uniquement d'un vote consultatif, même si, selon lui, ce vote n'est pas obligatoire.
Et sur cette question, vous avez consulté plusieurs experts.
Oui, et ils estiment que cette transition politique va se passer très rapidement et plutôt d'une manière un peu opaque afin de ne pas laisser la possibilité aux opposants de se mobiliser. D'ailleurs, c'est la première fois que Vladimir Poutine avance son discours traditionnel. Il l'a prononcé en janvier, alors que normalement c'était en février, voire même en mars. D'ailleurs, lui-même reconnaît devant le Parlement son caractère inédit. Les mesures urgentes sont nécessaires à prendre, dit Vladimir Poutine.
Et dans tout ce qu'il a annoncé l'autre jour à Moscou, il y a une mesure qualifiée de révolutionnaire par certains.
Oui, Vladimir Poutine souhaiterait mettre fin à la primauté du droit international sur la constitution russe. Il est assez étonnant d'ailleurs qu'actuellement en Russie, on étudie de près la biographie du nouveau Premier ministre, on discute des candidats au poste des ministres, mais aussi des scénarios d'après 2024. Mais bizarrement, très peu de gens ont vraiment fait attention à cette proposition de placer la constitution russe au-dessus du droit international. Pourtant, selon Andrei Kolesnikov du centre de recherche Carnegie, c'est un point essentiel. Je propose d'écouter l'extrait de son interview au journaliste du service russe de RFI, Denis Strelkov.
Quel est son point de vue ?
Alors, selon Andrei Kolesnikov, le système de droit actuel dans la civilisation moderne donne la priorité au droit international et dans cette hiérarchie des lois. Casser ce système est une révolution dont les conséquences sont floues. Il est juste évident que si les citoyens souhaiteront déposer plainte à la Cour européenne des droits de l'homme, ils pourront le faire, mais la Russie, selon cette nouveauté, aurait le droit de ne pas appliquer la décision de la justice européenne.
Nina Nguyen, Vladimir Poutine, on se pose la question, chercherait-il à maintenir son pouvoir après 2024 ? En tout cas, s'il n'a pas prononcé sa volonté d'être au pouvoir à vie, ceux qui connaissent la Chine ont déjà vécu ce genre politique, hein, il y a de cela 2 ans.
Oui, il y a 2 ans, c'était début 2018, aussi dans une révision constitutionnelle, mais cette fois-ci en Chine, que les législateurs chinois ont abrogé la limite de 2 mandats présidentiels. Le président actuel, Xi Jinping, peut désormais rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le souhaite. Fini l'héritage de Deng Xiaoping, réformateur de la Chine pour une économie florissante. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la décision le 11 mars 2018 des 3000 députés qui ont dit oui à la réforme constitutionnelle donnant Xi Jinping un mandat illimité. Au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle, Poutine gouverne plus que jamais, mais le grand timonier Mao Zedong régnait aussi la Chine pendant 27 ans. Après sa mort, le maître d'œuvre de la révolution capitaliste chinoise Deng Xiaoping avait limité le mandat à 2 termes. Cette règle a été respectée depuis 1982 avant d'être supprimée en faveur d'un meilleur contrôle sous Xi Jinping, l'empereur rouge. Et si le goût du pouvoir est partagé entre Poutine et son homologue chinois, la réalité fait que le président russe doit chercher à maintenir son influence par une manière moins brutale.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans Accent du Monde sur ces changements politiques en Russie. Vous écoutez RFI.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
En Iran, le guide suprême, Ali Khamenei, a dirigé la grande prière de ce vendredi à Téhéran, ce qui n'était pas arrivé depuis 2012. Alors Ali Reza Manavzadeh, la rédaction persane, cela montre-t-il que la République islamique traverse une crise majeure ?
Tout à fait. En 2012, il a dirigé la grande prière du vendredi en pleine crise internationale autour de la question du nucléaire iranien. Mais cette fois, son régime est accablé par une crise aux multiples facettes. En novembre dernier, il a donné l'ordre d'écraser un vaste mouvement de contestation. Selon Reuters, environ 1500 manifestants ont été tués par les forces de sécurité. L'assassinat par les Américains du général Soleimani, commandant en chef des opérations extérieures de la République islamique, a permis au régime de souder pour une courte durée ses rangs. Mais le crash de Boeing ukrainien, faisant 176 morts abattus par deux missiles iraniens lors de la soi-disant riposte de l'Iran contre les États-Unis, a terni énormément l'image du régime aux yeux même de ses partisans. Les autorités ont d'abord nié l'hypothèse selon laquelle l'appareil ait pu être abattu par un missile iranien. Mais la pression internationale les a obligés à avouer leur faute.
Les Iraniens ont du mal à pardonner ce mensonge aux autorités. Qu'a donc dit le guide de la révolution aujourd'hui à la prière à ce sujet ?
Beaucoup d'Iraniens attendaient qu'il fasse d'une façon ou d'une autre son mea culpa. Mais non, je vous invite à l'écouter.
یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما.
Alors, aidez-nous à comprendre ce qu'il dit.
Et il rappelle l'événement du crash d'avion il y a peu de temps, oui. Et dit c'était un événement amer qui nous a attristés profondément. Perdre des jeunes gens de notre population bien-aimée et tous ces gens venus d'ailleurs en Iran, cela a été sans aucun doute un événement amer. Mais il se trouve que certaines personnes, guidées par les télévisions américaines et les radios britanniques, ont essayé de couvrir l'événement de sorte que la mort en martyr de ces deux hauts commandants, c'est-à-dire Soleimani et son bras droit iranien.
Une prise de parole aujourd'hui du guide de la révolution. Le temps nous presse. Je voudrais qu'on parle avec la rédaction chinoise de l'élection présidentielle à Taïwan. La présidente sortante l'a emportée avec plus de 57% des voix. Nina Nguyen, on se rappelle qu'il y a un an, la victoire de cette présidente indépendantiste était peu envisageable.
C'est vrai qu'il y a un an, le grand favori des sondages était un nouvel arrivé à la scène politique et membre du parti Kuomintang. Tsai Ing-wen était loin derrière, mais les manifestations pro-démocratie à Hong Kong ont fait renverser les prévisions. Le candidat de Kuomintang était jugé trop proche avec Pékin. Il proposait de faire réchauffer l'économie par un lien plus intime avec la Chine continentale. Et finalement, Tsai Ing-wen, qui ne reconnaît pas le consensus d'une seule Chine, a gagné.
Alors on se rappelle que le consensus d'une seule Chine, justement, est soutenu par la coalition Pan-Bleu. Cela désigne que la Chine continentale et Taïwan appartiennent à une seule Chine. C'était la base de toute discussion possible entre les deux parties, selon Pékin.
Tout à fait. C'est le consensus qui affirme que Taïwan et la Chine continentale appartiennent à une seule Chine, bien qu'il y a pu avoir plusieurs interprétations quant à la signification de la Chine. Et la victoire de Tsai Ing-wen qui le rejette, c'est en réalité un référendum sur l'avenir de Taïwan à l'égard de la Chine continentale. L'interrogation sur l'économie intérieure n'était pas déterminante si on revient au débat des campagnes. Et les relations diplomatiques rompues récemment avec plusieurs pays sous la pression chinoise ne fait que renforcer à Taïwan une marée anti-autoritatisme de Pékin.
On écoute le discours de Tsai Ing-wen après l'annonce du résultat. Que dit-elle ?
Le choix du peuple taïwanais est une voie démocratique. Le monde entier l'a entendu et bien sûr, ceux qui sont en face des droits l'ont aussi entendu. Nous et eux ont tous la responsabilité de garantir la paix régionale actuelle.
En un mot, comment Pékin réagit ?
Pékin dit que les forces ténèbres de l'extérieur ont manipulé l'élection de Taïwan en faisant référence à l'Occident, surtout aux États-Unis, et critique Tsai Ing-wen.
Merci pour cet éclairage, Nina Nguyen, de la rédaction chinoise de RFI. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.